Ce soir, je suis venu avec un cadeau. Ça vous dit quelque chose? Je suis venu avec un cadeau pour vous. Je suis venu avec la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, on va prendre l'épisode 2 ce soir. La dernière fois, nous avons vu l'épisode 1 avec la semence. On a lu le texte de la parabole du semeur, ou autrement dit, en fait, la semence et les différentes terres. Ce soir, je voudrais passer à l'épisode 2. On va déballer encore un peu plus le cadeau pour voir ce que le package, pour voir ce que vraiment la parole de Dieu veut dire. Et on va prendre le temps, juste un terrain encore ce soir, donc épisode 2. Et je vous propose donc de prendre l'évangile de Marc au chapitre 4, du verset 2 au verset 9. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit, Jésus-Christ, dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un autre endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On était tous d'accord pour dire que la parole de Dieu était cette parole qui nous réconfortait. Elle livrait un message de l'amour de Christ, qu'on a besoin de cette parole pour grandir dans la foi, pour connaître Jésus-Christ, pour connaître le Père, ce Dieu créateur. Et parfois, nous sommes ce peuple, cette foule qui en fait représentons ces différents terrains que Jésus-Christ décrit. Vous savez, quand Jésus, il enseigne face à une foule, et dans cette foule que nous sommes en fait, il s'agit de différents terrains. Le long du chemin qu'on a parcouru la dernière fois, le sol pierreux que l'on va parcourir ce soir, les épines que l'on va parcourir, Dieu voulant, la prochaine fois, pour enfin trouver la terre fertile, la bonne terre. Le point culminant, c'est de dire, la semence, elle tombe. Le semeur, on s'en fiche, on n'en parle pas. On dit la parabole du semeur, mais ce qui nous intéresse, c'est la semence qui prend contact avec les différents types de terrains et d'arriver, pour nous qui écoutons, pour nous qui nous présentons devant Dieu, d'avoir cette terre qui reçoit favorablement cette graine, cette semence, pour qu'ensuite on puisse porter du fruit. C'est ça le but. C'est pour ça que l'on prie. C'est pour ça que l'on est là et qu'on écoute des enseignements, qu'on lit et qu'on médite la parole de Dieu. Et je voudrais reprendre donc au verset 5. Donc, une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. On observe par là qu'en fait, il y a de la terre déjà, et ce n'est pas en surface. Mais dans cette terre, en fait, il y a des cailloux, des rochers, quelque chose d'un peu plus dur. Et Luc précise un petit peu et dit, cette terre, en fait, elle manque d'humidité. C'est le seul évangéliste qui va donner cette petite précision. Elle manque d'humidité, cette terre. Du coup, la conséquence, c'est que la semence, elle va pousser, mais elle va sécher, brûler à cause du soleil et par manque de racines. Peu de terre, mais avec des pierres. Ça veut dire, le message est globalement compris. J'ai compris ce que tu veux me dire au travers du message, au travers du chant, au travers de la parole de Dieu, au travers de ma méditation. Mais, et c'est là qu'on attaque un petit peu les rochers. C'est là qu'on attaque les cailloux. J'ai compris ce message, j'ai compris l'enseignement, j'ai compris l'encouragement, mais ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas si un jour ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, bien en arrière. Vous savez, on entend le message et puis on comprend le message, il n'y a pas de problème. Et puis, on ne se sent pas concerné, on regarde à côté. Et on pense en fait à quelqu'un et on dit, on tourne un peu la tête Et puis la personne, en fait, elle n'est pas là. Elle dit, ah, et si cette personne, elle était là, ce message, c'était pour elle. Et puis, on se rend compte, en fait, après réflexion, que Dieu sait. Dieu sait qui sera là. Dieu sait qui ne sera pas là. Du coup, en fait, cette réflexion, c'est juste une excuse pour dire, j'ai bien compris le message, mais ça ne me concerne pas. Ça concerne le copain de gauche, le copain de droite, mais ça ne me concerne pas. On est très fort pour dire, le message, il est pour un tel, parce qu'il a besoin d'être enseigné sur tel sujet ou sur tel sujet. Il a besoin d'être encouragé. Et si cette personne était là? Et Dieu n'est-il pas si grand pour savoir qui c'est qui sera là ce soir, qui c'est qui sera là dimanche matin ou dans telle réunion? Dieu n'est pas si grand pour parler à la personne lui-même? Je pense que lorsqu'on se présente devant Dieu, dans notre culte personnel ou même dans nos réunions plénières, Dieu nous parle et que c'est à nous de nous sentir responsables et de comprendre. Et peut-être que ce n'est peut-être pas forcément pour la personne d'à côté, pour le frère, la sœur ou pour l'ami, mais peut-être que c'est pour nous. Mais la semence touche la terre, je comprends le message, mais je rencontre les premiers obstacles, les cailloux. Ce n'est pas pour moi. J'ai compris le message, l'enseignement, l'encouragement, mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Vous savez, on est quand même dans la marche avec Dieu, avec beaucoup de questionnements. Et bien, dans le timing dans lequel on vit, on a des questionnements bien précis, dans les circonstances qui ne sont bien précises. Mais parfois, la réponse que l'on veut, on a même des fois dessiné en fait la forme dans laquelle on voudrait recevoir la réponse, le contenu de la réponse, mais si ce n'est pas ni la forme ni le contenu, alors ce n'est pas pour nous. La dernière fois, je vous ai raconté l'histoire donc de Naaman, le général. Je pense que je l'aime bien, le général Naaman. Il y a beaucoup d'enseignements. Et Naaman, pour rappel, est un général syrien qui n'est pas du peuple de Dieu. Il est très important, à tel point que son roi lui a conseillé d'aller voir le peuple d'Israël, enfin, lui avait accordé d'aller voir le roi d'Israël, parce qu'il y avait, suite au conseil de sa femme, le prophète Élisée. Et il était allé. Et lui, dans sa tête, il allait voir le prophète Élisée, l'homme de Dieu, pour chercher la guérison de sa maladie, la lèpre. Et en arrivant, il s'est fait déjà toute une idée de la manière d'être reçu parce qu'il était général. Et lorsque le prophète Élisée ne se déplace même pas pour aller le voir, je pense qu'il y avait dans son cœur quelques déceptions. Et la deuxième déception arrive quand il dit, jette-toi 7 fois dans le Jourdain et ta peau sera saine, tu seras purifié. En entendant cela, il arrive et il est outré et dit, mais pourquoi? Pourquoi moi je suis un général, il ne daigne même pas me recevoir et en plus de ça, il me demande d'aller me jeter dans le Jourdain 7 fois. Mais ce qui est bien en fait, et ce qu'on en retire de cet enseignement, c'est que malgré tout ça, il a su comprendre le message du prophète Élisée, c'est-à-dire d'aller au Jourdain se laver 7 fois et revenir, laisser son ego de côté et juste appliquer. Et il a reçu la bénédiction. Et la question nous pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est d'avoir raison, notre ego, notre fierté, ou finalement d'obtenir la bénédiction, d'obtenir la parole de vie, le réconfort, qu'importe la forme que cela peut prendre. Souvent, il y a cet exemple qui est un peu donné. C'est quelqu'un qui voyage en bateau et se retrouve en plein milieu de l'océan. Et c'est un croyant qui dit, Dieu intervient pour me secourir alors qu'il est au milieu de l'océan. Puis plein de bateaux passent et puis dit, est-ce que tu veux que je te secoure? Et le naufragé dit, non, vous inquiétez pas, Dieu va me secourir. Un autre bateau passe, encore un autre, et encore. Et puis le même message, la même réponse, non, Dieu va me secourir, vous inquiétez pas. Puis il finit par mourir, le pauvre. Et il se retrouve au ciel en fait avec Dieu. Et dans son entretien avec Dieu, il dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas sauvé alors que je criais à l'aide ?» Et le Seigneur de lui répondre, « Je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un deuxième bateau, je t'ai envoyé un troisième bateau et tu n'as juste pas répondu. » Tout ça parce qu'en fait, il attendait une chose extraordinaire, peut-être la main sortie du ciel qui vient pour le secourir, le télétransporter dans un abri sûr. Non. Lorsqu'on reçoit un enseignement, je pense, lorsqu'on lit la parole de Dieu, je pense qu'il faut juste s'attendre en fait à une réponse de Dieu et d'accepter cette réponse-là. Ce manque d'humilité est là, lorsque Luc le précise. Et c'est pour ça que l'on prie à chaque fois, lorsque on médite la parole de Dieu, même lorsqu'à chaque fois qu'on enseigne ou à chaque fois que le message va être proclamé, on prie que le Saint-Esprit, parce que l'humidité, cette eau vive, c'est le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Et on prie pour que nos cœurs soient disposés, disposés à recevoir, que les terres soient travaillées, qu'importe qui c'est qui prêche, qu'importe qui c'est qui fait chanter, qu'importe qui c'est qui va prier, qu'importe qui c'est qui va lire le texte. La parole de Dieu, elle est proclamée. Et comme je le disais, la chose la plus importante, ce n'est pas le paquet. La chose la plus importante, c'est le cadeau. Celle qui a le plus de valeur. La dureté des cœurs. Vous savez, les cailloux, c'est dur. Et ça représente ce côté un peu dureté auquel les racines ne peuvent pas prendre place. Les racines de la semence ne peuvent pas prendre place parce qu'on rencontre des obstacles. Et cette dureté des cœurs, c'est, je ne sais pas si ça vous est aussi déjà arrivé. J'ai compris le message, j'ai compris l'enseignement, j'ai compris l'encouragement, mais je le sais déjà. Eh oui, je sais déjà tout ça. L'enseignement sur la parabole de la semence et des quatre terres, elle a été enseignée tellement de fois. La parabole du fils prodigue, elle a été enseignée tellement de fois. Je le sais déjà, ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans que je marche avec Dieu. J'ai compris le message déjà. Pourquoi le répéter? Pourquoi je dois me fatiguer à exercer mon oreille à l'écoute de ce message? Ça fait tellement longtemps, mais c'est basique. C'est la base de la foi. Moi, j'ai acquis les bases. Je le sais déjà. Ok, peut-être. Jacques nous dit ceci dans Jacques 1, versets 22 à 25. Il dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trempant vous-même par de faux raisonnements. » Pardon, hein, « Ne vous bornez pas à l'écouter » est très lié à en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » J'ai compris le message. Je sais qu'en fait, je connais par cœur l'enseignement de la parabole du semeur. Mais est-ce que vraiment je mets en pratique déjà d'identifier quel type de terre mon cœur est aujourd'hui et de dire peut-être qu'aujourd'hui, ben, je suis ce long du chemin, je fais attention à qui va apporter la parole de Dieu ou alors j'ai déjà lu ce texte, je le connais par cœur, donc du coup, je peux le sauter ou alors qui c'est qui va chanter, moi, j'aime pas sa manière dont il chante ou dont il joue ou dont il prêche ou dont il prie. Et plein d'autres raisons, tout plein d'excuses et de raisons qui font qu'on n'est juste pas attentif. Est-ce qu'on met vraiment en pratique cette parole de Dieu qui nous invite vraiment à prier, à disposer nos cœurs et à dire peut-être qu'aujourd'hui, oui, j'ai le cœur un peu dur et que même si je connais l'enseignement, il y a peut-être une nuance que je n'ai pas. Il y a peut-être une chose nouvelle que je ne connais pas. Vous savez, la parabole du semeur, elle a été apportée par trois évangélistes. Matthieu, Marc et Luc. Chacun l'a apporté. Mais Dieu, dans sa souveraineté, l'a fait rapporter 3 fois. Et chacun avec une nuance légèrement différente. Et je l'ai dit tout à l'heure, par exemple dans l'évangile de Luc, où Luc rajoute cette précision, la terre manquait d'humidité. Vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'on la médite, lorsqu'on croit qu'on sait, on ne connaît pas toute la richesse. On ne comprend pas vraiment l'étendue même d'un seul passage. La parole de Dieu, c'est comme un diamant. Vous savez, le diamant, il y a plusieurs facettes. Et plus il y a de facettes, et plus le diamant a de la valeur. C'est pour ça qu'on parle de je ne sais pas combien de carats, et que bizarrement, plus on enlève du diamant, et plus il est cher, alors qu'en fait, plus il est brut, et moins il est cher. C'était une conception. Mais la parole de Dieu, c'est ça. C'est différents aspects. Et lorsqu'on regarde un petit peu le diamant, on regarde sur une facette, on regarde sur une autre facette, et puis en fait, on voit différentes choses. Et c'est ça, en fait. C'est ça, la richesse de Dieu. Vous savez, le message de Dieu, il n'est pas différent. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu se présente, et se présente comme un message d'amour, comme un Dieu d'amour, qui veut être en relation avec nous, qui cherche la relation, qui a été peut-être coupée par le péché, ok, mais qui a trouvé sa solution en Jésus-Christ. Matthieu 5,1 dit, dans la traduction de Louis II, 21, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Jésus enseignait, il n'enseignait pas qu'aux ignorants, il enseignait majoritairement à son peuple, ceux qui étaient habitués de la Torah, ceux qui étaient habitués des psaumes, des livres prophétiques, ceux qui étaient habitués à l'Ancien Testament. Il était face à des docteurs de la loi, face à des scribes, face à des très grands religieux, des très grands théologiens, même s'il y avait aussi des gens lambda. Mais parmi eux, il y avait des pharisiens qui peut-être avaient 6 étages de connaissance, mais qui étaient là en train de reconnaître l'enseignement de Jésus-Christ. Comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathée. Ils écoutaient, ils avaient reconnu en Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus n'apportait pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Il était le Messie qui remettait dans le contexte le message fondamental de l'Ancien Testament. Et les gens, à cause de la dureté du cœur, à cause de leur connaissance 6 étages, ils ne voulaient pas recevoir. C'était admettre, j'ai tort. Si je reconnais le message de Jésus-Christ, j'ai tort. Et je ne veux pas avoir tort, je ne veux pas passer pour un idiot face aux autres alors que je suis reconnu pharisien, docteur de la loi, avec mon doctorat en théologie rabbinique, connaissance, spécialisation en Torah. Et ça, c'est dur, ça, parce qu'on s'attaque à la fierté, on s'attaque à l'orgueil. Quand on est face à Dieu, c'est dur, ça. Et mince, et j'ai tort. Mais ne vaut-il pas mieux avoir tort maintenant et puis, en fait, recevoir quelque chose d'encore plus extraordinaire que vouloir juste avoir raison et s'entêter à avoir raison et passer à côté de quelque chose. Le message de Dieu, je l'ai dit, c'est un message où Dieu se dévoile. Et entre autres, vous savez, par exemple, si je vous dis « Dieu est amour », vous le savez tous, hein. Même les non-croyants peuvent le dire « Oui, les chrétiens croient que Dieu est amour ». Ça, c'est la semence qui touche la terre, pas de problème, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Maintenant, lorsqu'arrive la tribulation, parce que du coup, on a la traduction un peu plus tard, là, l'explication par Jésus, donc au verset Marc 4, verset 16, il dit « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. » Je l'ai compris, je suis heureux. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Je vais donc illustrer avec cet exemple. Tout le monde sait que Dieu est amour. Oui, mais Dieu est amour. Et quand tout va bien, on est là. Ouais, mais t'inquiète pas, Dieu est amour. Ouais, ouais, non, mais Dieu t'aime. Et puis quand un jour nous arrive une galère, là, on arrive à remettre en question l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est fait une forteresse, tout un raisonnement sur l'amour de Dieu. On a conçu l'amour selon le monde, à notre préférence et à notre goût. On n'a pas compris l'amour de Dieu. Et justement, on passe à côté. Et suite à ça, face aux tribulations, face à la persécution, on est déçu parce que Dieu n'a pas répondu. Mais s'il était amour, il m'aurait répondu, il m'aurait béni comme je le voulais, comme je l'aurais voulu. Et là, on ne comprend pas l'amour de Dieu. On se dit, mais Dieu est amour, mais je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas donné ma voiture alors que je voulais une voiture rouge. Pourquoi il m'a donné une bicyclette? Et c'est là où, en fait, tous les raisonnements, on s'y perd. Pourquoi? Parce que la semence n'a pas pris le temps de s'enraciner. On n'a pas pris le temps de persister, de persévérer dans la méditation et d'ancrer encore plus nos convictions. Et on saurait que Dieu est amour, mais comme un père, il donne ce dont on a besoin et pas ce qu'on voudrait comme caprice. Dans son amour, il nous évite des pièges et dans son amour, il nous accompagne dans les épreuves. Il ne nous a pas dit que tout serait rose. Il ne nous a pas dit que tout serait fantastique et merveilleux et que jamais on souffrirait. Non. Dans son message, si on lit bien de la Genèse à l'Apocalypse, il nous dit aussi qu'on aura des tribulations, qu'on aura des souffrances, mais qui sera et qui serait encore et toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Que lorsqu'on n'est pas bien, il nous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Qu'on a accès auprès du Père, qu'on peut le prier. Et qu'au-delà de toutes les richesses que l'on peut avoir sur la terre, la chose la plus importante, c'est le ciel. Notre vie après la terre, ce qui se passe. J'aimerais juste conclure en disant, on peut connaître plein de choses, mais si ça demeure intellectuel ou théorique, c'est vain. On passe à côté de tellement et tellement de choses. On sait, par exemple, qu'il faut prier, lire, méditer la parole de Dieu, sinon l'âme, elle meurt. Mais comme l'a dit Jacques, si on ne le met pas en pratique, ça ne sert à rien. Et notre âme, elle se meurt. C'est bien de le savoir. Mais pratiquer, c'est encore beaucoup mieux. La dureté, c'est ce qui a perdu beaucoup d'hommes. Et on n'en manque pas d'exemples dans la Bible. Et la Bible, elle est là pour nous enseigner. Vous savez, quand dans 2 Timothée 3,16, Paul y dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger, enseigner, exhorter l'homme et la femme dans la justice pour qu'ils soient aptes à œuvrer, aptes à accomplir les choses que Dieu a préparées. » Je le retranscris un petit peu. Et tout nous est utile, même les choses qu'on répète, même les choses qui encore et encore. Si dans 10 ans, quelqu'un va vous faire encore un enseignement sur la parabole du semeur, c'est peut-être qu'on a encore besoin de l'entendre. Parce que peut-être il y a des éléments qu'on a oubliés et qu'il faudrait qu'on se remémore. Pharaon, à cause de la dureté de son cœur, cela a causé la perte de son peuple et de son premier aîné, de son premier fils. Saül, choisi par Dieu, oint par Samuel, à cause, alors qu'il était humble, alors qu'il avait bien commencé, a chuté, il a tombé. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, alors qu'il recevait la parole de Dieu, son cœur s'est endurci à cause de la pression de son peuple, à cause de ce qu'il allait, alors qu'il était focalisé sur ce qu'il allait perdre et non pas ce qu'il allait gagner. Et en contrepartie, moi j'aime beaucoup David. Vous savez, David, c'était un grand roi, on dit souvent c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et il a fait beaucoup de choses bien, il en a fait aussi des choses un peu moins bien. Et alors qu'il avait commis, vous connaissez l'histoire avec Bathsheba, ensuite il a fait un petit complot pour passer pour un héros, faire tuer Uri, donc le mari de Bathsheba, pour ensuite dire « Oh, la pauvre, je vais la prendre maintenant comme épouse, comme ça je passe pour un héros. » Et tout le monde aurait vu que du feu. Seulement, Dieu l'a vu. Et Dieu a suscité un prophète, Nathan. Et le prophète est venu voir et il a révélé cette vérité-là au roi David. Et David, au lieu de s'offusquer, au lieu d'être outragé, il a reçu cette parole. C'est incroyable. Lui qui était roi, parce que lui, la royauté, c'était quelque chose que Dieu lui avait confié, mais ça appartenait à Dieu. Lui, ce qui l'intéressait, c'était sa relation avec Dieu, le salut avec Dieu. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, une âme bien disposée. Un esprit bien disposé, merci. Je n'étais plus trop sûr. Pourquoi j'ai péché contre l'Éternel? Mon péché m'a été révélé. Mais je veux retrouver cette relation que j'avais avec toi avant ce péché. C'est la chose la plus importante. La parole de vie, elle est là. Elle est là peut-être parfois pour rectifier, corriger. Parfois, elle est là pour renforcer nos convictions. Mais elle est là pour notre bien. Et si à partir de ce postulat-là, on a bien ancré ça dans notre cœur, tout enseignement que l'on peut faire, nouveau, ancien ou classique, ça ne peut que nous renforcer. Et les racines prennent encore, et encore, et encore. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est notre responsabilité. Écoutez, tendre l'oreille. Seigneur, parle, qu'importe. Mais je sais que ce que tu veux me dire, c'est pour mon bien. Parce que tu es ce Père qui prend soin de moi. Et ce Dieu d'amour, peut-être que j'ai conçu, mais que j'ai peut-être besoin de rectifier un petit peu ce que c'est que l'amour de Dieu pour moi, pour ma vie, pour mon prochain. Prions ensemble. Seigneur, nous voici devant toi comme des terrains, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, enfiler ces gants de jardinier, d'agriculteur pour enlever ces cailloux qui n'ont pas lieu d'être là dans nos cœurs. Parce que, Seigneur mon Dieu, ce qui nous intéresse, c'est de grandir avec toi. Seigneur mon Dieu, c'est de recevoir et pouvoir porter du fruit. Ce fruit, Seigneur mon Dieu, qui portera encore beaucoup plus d'autres fruits, parce que ça portera encore beaucoup plus d'autres semences, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, comprendre tout cela, Seigneur mon Dieu. Peut-être pas que intellectuellement, Seigneur mon Dieu, mais aussi on veut l'assimiler dans notre être, dans notre âme, Seigneur mon Dieu, intérieur. Et je veux te prier, Seigneur mon Dieu, afin que tu le fasses, même si j'ai peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, Seigneur mon Dieu, de conversion, de marche avec toi, même si j'ai fait 3 écoles bibliques, Seigneur mon Dieu, même si j'ai fait plein d'écoles de théologie, Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur mon Dieu, être comme ces enfants qui s'approchent de toi et qui apprennent, Seigneur mon Dieu, qui reçoivent, Seigneur mon Dieu, tout enseignement, Seigneur mon Dieu. Jésus, Seigneur mon Dieu, donne-moi avoir ce cœur d'enfant, Seigneur mon Dieu, parce que je veux avancer avec toi, je veux recevoir ce cadeau, le paquet, je m'en fiche, Seigneur mon Dieu, mais je veux être avec toi, Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur mon Dieu, cette parole de vie. Alors, Seigneur mon Dieu, donne-moi, Seigneur mon Dieu, cette oreille exercée, ce cœur disposé, Seigneur mon Dieu, à recevoir de toi. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui choisis les intervenants, c'est toi qui choisis qui c'est qui fait chanter, qui c'est qui prie, Seigneur mon Dieu, quel passage on doit lire, Seigneur mon Dieu, chaque jour, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui diriges toutes choses et qui fais les choses à propos et qui répond dans nos circonstances en ton temps, Seigneur mon Dieu. Alors, merci, merci, Seigneur mon Dieu, d'être ce Père et ce Dieu bienveillant. Merci pour tout, Jésus. Amen.